Cocktail culture.
Ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Je suis collé au ciel. Allez, on y va, on fait les choses en vrai, on va voir les gens en vrai, on les touche. Un cocktail.
Cocktail culture.
Cocktail culture.
Cocktail culture.
Cinéma.
Musique.
Littérature.
Théâtre.
Sur Radio Campus Paris.
Avec le Centre culturel du Crous de Paris.
Cocktail culture, la mixologie des arts.
Radio Campus Paris.
Et je veux un Oscar pour ce gémissement.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez notre émission spéciale Cocktail Culture dans le cadre des ateliers radio avec le Centre culturel du Crous de Paris. On va vous concocter avec toute l'équipe un mélange d'une grande saveur. Je vous présente les membres de l'émission. Salut June.
Hello.
Salut Philippe.
Coucou.
Salut Elias.
Salut.
Salut Léonie.
Bonsoir.
Et Diego, salut à la technique. Pour ce faire, nous vous proposons un zeste de musique avec le live du groupe Sahara, une pincée de théâtre avec le festival À Contresens, présenté par son directeur, et une cuillère à soupe de cinéma avec l'interview du réalisateur du court-métrage Belle de nuit. Sans oublier un petit morceau de lecture avec la librairie Palimpseste, une conférence sur la mode et l'art, et une exposition lettonne au Centre culturel du Crous de Paris. Tenez-vous prêts, voici notre cocktail culturel du jour.
Cocktail culture.
Cocktail culture.
Cocktail culture.
Cinéma.
Musique.
Littérature.
Théâtre.
Sur Radio Campus Paris.
Avec le Centre culturel du Crous de Paris.
On va commencer tout de suite avec la chronique ciné de June qui va nous parler du film Black Panthers, Vanguard of a Revolution, réalisé par Stanley Nelson en 2015. On va commencer par écouter un extrait.
But when I leave, you can remember I said with the last words on my lips that I am a revolutionary. And you're going to have to keep on saying that. You're going to have to say that I am a proletarian.
C'était la voix de Fred Hampton, grand orateur et leader des Black Panthers. Le film évoque, entre autres, son assassinat politique par le FBI. Mais la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que le film a été projeté à deux reprises ces dernières semaines à la Gaîté Lyrique. Elles se sont déroulées dans le cadre du cycle de projection Le Tour du Jour, les nouveaux territoires du documentaire, organisé par Benoît Hickey. Un engouement fulgurant s'est déclenché sur les réseaux sociaux à l'annonce de la première projection le 18 janvier, qui s'est suivi d'une rencontre avec Pap Ndiaye, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis. Il s'intéresse particulièrement aux luttes des populations noires en Amérique et en Europe. Sa présence a permis d'actualiser le film, mais aussi d'approfondir certains points, comme l'influence du marxisme chez les Black Panthers, mais aussi la place des femmes dans ce mouvement. Certaines d'entre elles sont devenues de véritables icônes, on pense par exemple à Angela Davis. Riche en archives, le film s'inscrit dans la culture alternative américaine et retrace l'histoire du mouvement des Black Panthers, qui a largement été ignoré par l'histoire officielle. On découvre notamment l'implication du FBI et du gouvernement américain dans la destruction insidieuse du mouvement et de son idéologie.
Pourquoi est-ce que c'est important de voir ce film aujourd'hui ?
Eh bien, Marthe, l'actualité de ces luttes est plus que pertinente aujourd'hui. On peut les comparer à celle du mouvement des Black Lives Matter aux États-Unis, mais aussi en vue des violences policières en France. Pas plus tard qu'hier, des révélations tragiques ont fait surface sur un jeune victime de ces violences à Aulnay-sous-Bois, sans parler des élections de Trump.
Et le prochain film qu'on pourra voir dans le cadre de ce cycle, c'est quoi ?
Le prochain film à l'affiche, Writing on the City, a été réalisé par un jeune cinéaste kurde iranien, Kewan Karimi, en 2015. Il examine les diverses formes du street art qui tapisse la ville et met en lumière le dialogue parfois complexe entre propagande gouvernementale et graffiti illégaux. Le réalisateur a été mis en prison quelques mois après avoir diffusé la bande-annonce de son film sur YouTube et condamné à 223 coups de fouet. La projection du film, qui aura lieu le 15 février prochain, sera accompagnée d'une discussion avec Denis Gouzer, membre de l'association L'Usage du Monde 21, une association qui soutient les artistes et cinéastes en exil. Une bourse sera délivrée au réalisateur à sa sortie de prison pour qu'il puisse travailler sur un film en France grâce aux subventions du CNC et de l'usage du monde 21. Ne ratez pas la séance.
Merci June de nous avoir présenté ce film. Et maintenant, petite pause musicale, tout en douceur avec le groupe Sahara. Philippe, tu nous en dis un peu plus ?
Avec plaisir. Pour présenter brièvement le groupe, Sahara, c'est Blandine Millepied à la guitare et au chant. Jérémy Lacoste à la basse et également au chant. Ariel Tintard au synthé et Swan Vidal à la batterie. Le groupe s'est formé à Bordeaux, où Ariel et Swan habitent toujours. Blandine et Jérémy, le duo amoureux qui est au cœur de Sahara, habitent à Paris depuis 2 ans, mais la distance entre les 4 membres du groupe ne les a pas empêchés de réaliser un album à paraître en mai. Cet album, dont je vais vous parler un peu plus en détail après, porte le nom de Colibri, et le morceau s'appelle Délice. Bonne écoute! Voilà, c'était Délice de Sahara, premier extrait d'un premier album à venir en mai qui s'intitulera Colibri. Je n'ai malheureusement pas le temps de tout dire sur ce magnifique album, mais je vais quand même essayer de vous expliquer pourquoi je l'ai choisi pour notre cocktail culture. Alors avant tout, c'est un album qui est plein de sons. Ça peut paraître évident, mais c'est en fait ce qui le rend si captivant. Blandine et Jérémy, les compositeurs, ne se contentent pas de mélodies et de rythmes pour remplir l'espace de leurs chansons. et construisent leurs univers comme bon leur semble avec de petits effets sonores et des bouts de chant qu'ils introduisent dans la musique. Et en l'occurrence, ce sont vraiment de très beaux univers qu'ils créent. Le deuxième atout de cet album est la multitude d'influences dont se servent ces jeunes musiciens. Colibri n'est ni rock, ni pop, ni world, ni jazz. Non, il est tout à la fois avec un lyrisme dans les textes autant que dans la musique. On retrouve des influences de Jaco Pastorius dans les lignes de basse fretless de Jeremy, par exemple. Le chant est tantôt onirique, tantôt entraînant et en chantant en français, en anglais et même en portugais. Blandine fait référence à ses divers héritages comme Nougaro ou le brésilien Tom Jobim. Je ne sais pas si je prononce bien. Swan, le batteur, se retient dans les moments silencieux, mais quand il se lâche, on assiste à un véritable cyclone de cymbales et de tomes. En écoutant des morceaux comme Délice ou Felicidade, ces derniers avec des sons très jazzy, on a carrément l'impression de se trouver sur une autre planète où les plantes ont des couleurs bizarres et où la gravitation n'existe pas. Alors certes, on peut entendre un certain nombre de groupes comme Juana Molina, Pathos ou Yes à travers la musique de Sahara, mais ce serait un crime de se limiter à ses influences pour la décrire. Sahara, et je dis ça sincèrement, compte parmi les groupes les plus merveilleux de notre époque, avec un son singulier et une inventivité qui se manifeste à travers l'utilisation de toute une panoplie de styles. Colibri, si vous me permettez cette conclusion un peu cliché, me redonne de l'espoir aujourd'hui. Oui, de l'espoir, parce que comme le désert dont le groupe tire son nom, la musique de Sahara abat les frontières. Avec force et délicatesse, avec une sincérité artistique et une esthétique éblouissante. Et dans un monde où une musique pareille existe, tout n'est pas perdu.
Oh là là, quel pathos dans cette émission.
Et ouais, c'est inspirant comme musique.
Tu nous dis quand même ce qu'on doit faire pour suivre le groupe ?
Oui, bien sûr. Vous pouvez trouver Sahara sur facebook.com/popsahara et sur soundcloud.com/saharapop. L'album sortira en mai, il s'appellera Colibri. En mars, le groupe publiera un autre morceau de l'album sur la compilation de La Souterraine. Et enfin, les concerts à Paris. Sahara sera au 3 Baudet le 15 février, au pop-up du label le 9 mars et aux mains d'œuvre le 14 avril.
Merci Philippe pour cet intermède musical. Je donne la parole maintenant à Elias qui va nous présenter la conférence Art et Mode qui s'est tenue au Centre culturel de Crousse le mardi 31 janvier 2017. De quoi s'agit-il ?
Alors salut, c'est Elias. Je vais vous raconter, la conférence dont on a eu la chance d'assister au Crous mardi soir. C'était une conférence présentée par deux artistes et metteuses en scène de photographie de mode, Laura Bonnefou, photographe, et Nina Olivet, coiffeuse. Ces deux jeunes femmes nous parlent de leur parcours et nous livrent quelques-uns de leurs secrets de réussite. J'ai trouvé ce témoignage assez poignant parce qu'en tant qu'étudiant, je me suis senti assez concerné par ce qu'elles ont vécu avant de trouver l'activité qui occupe leur vie et qui leur permet de vivre. À assister à leur conférence, on devait être une vingtaine, dont une majorité d'étudiants, certains en études de mode, donc je ne pense pas avoir été le seul à m'identifier à leur histoire. J'ai beaucoup apprécié quand Nina nous raconte qu'étant étudiante, elle était passionnée par un bon nombre de disciplines et que faire un choix précis s'avère être une angoisse puisque faire un choix, c'est renoncer à plein de choses. Je me trouve justement dans cette situation où je m'éparpille dans plusieurs directions et où choisir un domaine particulier ou faire carrière semble être une période pleine de doutes. Ça m'a donc rassuré de savoir que mon aîné était passé par là et que de faire un choix précis a été au contraire le meilleur moyen de réunir toutes ses passions en une discipline concrète. Laura nous explique que dans la photo, le CV n'a aucune utilité, que tout repose dans l'expérience. Elle affirme aussi que l'école d'art n'est pas indispensable et que beaucoup ont réussi en autodidacte. L'école révèle le talent, mais ne le crée pas. J'en suis très réceptif, car de ma courte expérience, c'est ce que j'avais cru comprendre, et c'est pour cela que je suis inscrit en fac. Ce témoignage à propos d'une carrière en mode, on pourrait croire que ça concerne et que ça peut intéresser que les étudiants ou les futurs... Les étudiants en mode ou ceux qui veulent faire de la photo ou quoi, mais pas du tout, en fait, ça concerne un peu tous les jeunes qui veulent se lancer dans quelque chose, dans une discipline. C'est un petit peu des conseils et voilà leur parcours, donc c'était très intéressant. On peut retrouver le programme des futures conférences sur le site internet du Crous. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, c'est très intéressant.
Merci Elias de nous avoir appris que l'on pouvait être photographe de mode et d'art, ça fait du bien. Léonie, tu y allais interviewer l'équipe de la librairie Palimpseste.
Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Isabelle Léger et Nathalie Fisbach, qui travaillent donc dans la librairie Palimpseste, qui se situe au 16 rue Santeuil, dans le 5e arrondissement de Paris, juste en face de l'université Sorbonne Nouvelle. Elles vont nous dire quelques mots sur la librairie et nous donner des conseils lecture.
Oui, Je m'appelle Isabelle Léger, je suis libraire ici depuis 10 ans. Donc chez Palimpsest, c'est une librairie qui date, qui est très vieille, qui a été montée en 1969-68, il me semble, qui a été créée en même temps que la fac, la Sorbonne Nouvelle. Thierry Saillot, qui est directeur ici, l'a reprise en 1987, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc ça fait un bail déjà, 30 ans quasiment. Voilà, c'est une librairie donc universitaire. Notre choix est fait en fonction des enseignements qui sont dispensés à la fac.
Alors moi je m'appelle Nathalie Fisbach et je suis là de façon un peu saisonnière puisque... je m'adapte au calendrier de la fac, donc je suis là à la rentrée, c'est-à-dire en septembre jusqu'à peu près fin mars. Et j'ai été embauchée plus spécifiquement depuis, je crois que c'est la cinquième année, à l'ouverture de la section hispanique qui a ouverte donc, dans le sous-sol de la librairie. Et voilà, donc ça depuis 5 ans, c'est la 5e année. Je m'intéresse à la fois aux sorties de livres en espagnol et en même temps je reste quand même très au fait de l'actualité littéraire française, enfin de ce qui sort. Un livre qui me vient comme ça à l'esprit, c'est peut-être le dernier, le livre inédit de Bolaño qui est quand même, qui a le vent en poupe en Europe et particulièrement en France. Donc c'est un auteur qui a été découvert un peu à titre posthume, mais qui est vraiment, je pense, un auteur très important dans l'histoire littéraire latino-américaine. Et donc chaque sortie de livre ou ressortie de livre de Bolaño, c'est un petit événement à tel point que on en a... cette année particulièrement, il y a eu beaucoup de d'événements autour notamment de sa pièce maîtresse qui est 2666. Voilà, après on peut aussi parler de Javier Cercas qui est dont le dernier roman, hein, L'imposteur, a été aussi, c'est aussi un petit chef-d'œuvre, hein, dont la sortie poche date de quelques mois en Espagne, et voilà, qui est aussi un auteur un peu incontournable. Alors là, pour le coup, de la littérature espagnole, qui est aussi un grand qui se réclame de Borges ou de gens comme ça. Donc c'est les deux auteurs un peu marquants dont les sorties de livres sont vraiment toujours un petit événement en soi. Voilà.
Donc alors il y a un livre moi qui m'a particulièrement touchée, qui est paru il n'y a pas très longtemps. C'est un premier roman de Gilles Marchand qui s'appelle Une bouche sans personne. C'est l'histoire d'un homme qui a une cicatrice et un poème. Il dissimule depuis toujours cette cicatrice qu'il a sur le visage par une écharpe. On ne sait pas ce qui s'est passé, on le saura à la fin du roman, car tous les soirs, il va dans un café retrouver deux ou trois amis un incident va l'amener à se révéler, à parler de lui. Et en fait, ce café va devenir le théâtre de la révélation de ce passé, terrible. Et c'est un roman tout en finesse, et c'est un roman très très léger. C'est un très très beau roman. Il y a des passages, c'est drôle parce qu'il y a des passages très surréalistes où j'ai reconnu moi des passages de certains livres de Boris Vian. Donc voilà, il y a un petit peu cet univers de Boris Vian dans ce livre-là. C'est un magnifique roman. Moi, c'est le roman qui m'a le plus touchée là, ces derniers mois.
Super, est-ce que vous pouvez nous lire un extrait ?
Donc j'ai un poème et une cicatrice. De ma lèvre inférieure jusqu'au tréfonds de ma chemise, il y a cette empreinte de l'histoire, cette marque indélébile que je m'efforce de recouvrir de mon écharpe afin d'en épargner la vue à ceux qui croisent ma route. Quant au poème, il me hante comme une musique entêtante. Ces mots rampent dans mon crâne d'où ils voudraient sortir pour dire leur douleur au monde. Poèmes et cicatrices font partie de moi au même titre que mes jambes, mes bras ou mes omoplates. Je ne me sens pas tenue de les examiner pour savoir qu'ils existent. J'ai seulement appris à essayer de les oublier. Voilà pour mon armoire à souvenirs. J'ai pris soin de la cadenasser solidement et la plupart du temps, cela marche. Mais la seule solution pour rester, à ma manière, assez heureux... Mais les cadenas sont fragiles et il est impossible d'oublier une cicatrice lorsque celle-ci fait office de masque que l'on ne peut retirer.
Malheureusement, cette librairie vit ses dernières années, alors n'hésitez pas à aller vous perdre dans les rayonnages et à demander des conseils à l'équipe qui sera ravie de vous répondre.
Merci Léonie. C'est Claudio que nous allons maintenant accueillir sur le plateau de Radio Campus Paris. À toi Philippe.
Qui dit culture dit aussi musique, et c'est de la musique qu'on va écouter maintenant. Je suis avec Claudio Cabral, un musicien de Rio de Janeiro qui vit actuellement à Paris. Salut Claudio.
Salut Philippe.
Tu es musicien et producteur, tu écris entre autres des morceaux pour guitare et tu composes également de la musique pour des films. Tes concerts par contre sont toujours improvisés, c'est ça ?
Non, pas exactement. Enfin, ils ont toujours un élément d'improvisation, mais ils ne sont pas complètement improvisés. Disons que je connais en ligne générale de ce que je vais jouer, mais les détails sont un peu laissés pour le moment.
D'accord, ok. Bah, tu vas nous jouer un morceau maintenant ?
Oui, absolument.
Ok, super. Bah, quand t'es prêt.
Thank you.
Vous venez d'écouter un morceau improvisé de Claudio Cabral, un musicien parisien originaire du Brésil. Le morceau qu'on vient d'écouter, on pourrait le décrire comme du noise, des bruitages musicaux, pour ainsi dire.
Je dirais pas des bruitages musicaux. Et noise, c'est un mot qui veut tout et rien dire. S'il y a des influences du drone, je dirais. Et en France, au moins, c'est noise, c'est cette musique bruyante avec un peu de beat. Est très très courante. Du coup, je pense que voilà, il y a une certaine influence de Paris dans ce que je viens de jouer.
D'accord. Qu'est-ce qui te fascine dans ce style de musique?
C'est d'une part, c'est les sons, le volume, la puissance du son, la physicalité de ce type de musique. Et d'une autre part, c'est la communauté autour de cette musique, qui est une communauté qui est très, très liée, pour ainsi dire. Les mots m'échappent en français, mais ce sont des gens qui aiment jouer ce genre de choses, qui aiment écouter ce genre de choses et qui, en même temps, s'en fichent un peu que ça marche pas trop ailleurs. Et elles savent ça très bien et normalement, c'est pas un problème si d'autres personnes n'aiment pas ou des choses comme ça. C'est juste, on est en train de faire notre truc. C'est cool, ça va.
Où est-ce que tu trouves ton inspiration?
Un peu partout. Mais souvent, c'est pas seulement ça que je fais. Je joue beaucoup avec des choses plus pop. Et là, c'est très, très inspiré des années 80. Une certaine nostalgie, tacky, disons.
Et tu peux nous parler de ces autres projets que tu as?
Oui, bien sûr. Je fais des bandes-son pour des films. Et là, souvent, les metteurs en scène me cherchent justement par ces côtés, par ces deux côtés que j'ai. D'une part, le fait d'être capable de faire de la musique avec des sons bruiteux et très différentes, disons, de ce qui est plus courant. Surtout au bande-son. Et d'une autre part, ce côté plus fêtard, très chargé dans les synthés et qui regarde un peu à l'arrière. Autre que ça, j'ai un groupe qui commence, c'est vraiment, on n'a aucune répétition. Et c'est aussi une chose plus, je dirais pas dansante, mais plus dans les années 80.
Plus actif.
Plus actif.
Eh bien, super. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
C'était un plaisir.
On peut te retrouver sur SoundCloud. C'est soundcloud.com/Claudio Cabral.
Oui, voilà. Et futurement, je pense faire un nouveau site, mais pour l'instant, c'est qu'un projet.
D'accord. C'était Claudio Cabral dans Cocktail Culture.
Ah, j'ai vu un très beau film de Jodorowsky qui s'appelle Poesia sin fine, qui parle de sa vie. Alexandro Jodorowsky, qui est aussi un metteur en scène et un écrivain. Cela dit, je le regrette infiniment, Je n'ai pas le temps d'aller beaucoup au cinéma, mais j'étais content de voir ce film. Très heureux.
Cocktail culture. Cocktail culture.
On a parlé musique, livres et cinéma, mais pas encore de théâtre. Vous allez écouter l'interview de Tristan Hérault, le président de l'Association théâtrale des étudiants de Paris 3, qui organise un festival annuel au sein de l'Université Sorbonne Nouvelle, le festival à contresens depuis maintenant plus de 20 ans.
Alors notre public principal, c'est évidemment les étudiants de l'université. Ensuite, le festival, il s'adresse à tous les publics qui seraient intéressés par la jeune création et par la création étudiante. En dehors du festival, on a plusieurs choses qu'on met en place. On anime des ateliers à l'année, donc des ateliers de pratique théâtrale hebdomadaires, ou parfois sous forme de stage. On organise des représentations à d'autres moments de l'année de compagnies étudiantes. Ça, c'est vraiment nos trois gros pôles avec le festival. Et ensuite, on est sur d'autres plus petites missions. On participe à pas mal d'événements qui s'organisent dans l'université. Cette année, on est en train de lancer un projet hors les murs qui vise à permettre à des compagnies qu'on connaît d'aller jouer dans d'autres universités. On travaille aussi de plus en plus avec les professionnels, avec les journalistes pour essayer de les intéresser à la jeune création et de les inviter à découvrir les compagnies qu'on programme.
Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle édition du Festival à Contresens ?
Eh ben, cette nouvelle édition, elle aura lieu du 22 mars au 5 avril. Tout se déroulera dans l'Université de Paris 3, dans différentes salles. L'accès est gratuit à tous les spectacles. Il faut juste penser à réserver. Et donc cette année, on a sélectionné 22 compagnies qui présenteront 24 spectacles. Et chaque spectacle jouera au moins deux fois. Voilà, ça devrait être super chouette. Il va y avoir aussi pas mal d'animations qui seront organisées sur le campus, autour des spectacles. Et on espère vous y retrouver nombreux.
Comment se passe l'élaboration de la programmation ? Est-ce que ça se fait plutôt en groupe ? Est-ce qu'il y a une personne qui est chargée de faire ça ?
Alors l'idée c'est que c'est les bénévoles de l'association qui font la sélection, donc une fois que les compagnies ont candidaté via un dossier de candidature, on se réunit tous ensemble, on examine les dossiers et on se pose la question de qui c'est qui passe en audition et qui c'est qui ne passe pas. Et après ça on organise des auditions où encore une fois tous les bénévoles sont invités à participer, on invite aussi quelques partenaires de l'université. On organise une phase d'audition et à la fin de cette phase, on se retrouve et on discute de quelles compagnies sont programmées. Donc c'est vraiment un travail collectif. On essaye de se mettre tous d'accord pour ne pas fermer la programmation et pour ne pas se dire qu'il y a une personne qui va décider des 24 spectacles. Comme c'est quand même quelque chose d'assez collectif et participatif, on est tous bénévoles, donc on a tous notre mot à dire sur la programmation.
Et quels sont vos critères pour choisir telle ou telle compagnie ?
Alors, il y en a plusieurs. Évidemment, on va regarder dans un premier lieu l'intérêt artistique du projet. Ça peut être extrêmement variable, mais on essaye de voir si les compagnies déjà savent où est-ce qu'elles veulent aller et savent de quoi elles veulent nous parler. Ensuite, on ne se met aucune barrière en termes de voilà, quelle pièce, quel texte, quel mode de travail, quelle forme de compagnie. Ça, on est très très ouvert. Mais on regarde quand même évidemment le propos artistique. Et puis il y a un deuxième critère qui rentre pas mal en jeu, c'est notre estimation sur le sérieux et je dirais entre guillemets la solidité des compagnies. C'est-à-dire que comme on fait des auditions au début de l'année, que le festival a lieu plus sur le second semestre, l'idée c'est d'être sûr que les compagnies réussiront à tenir le rythme, que le spectacle sera prêt à temps, en tout cas présentable à temps, et que la compagnie va bien se porter et que tout va bien se passer entre eux et nous.
Est-ce qu'il y a un fil conducteur qui relie les pièces du festival ?
Non, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Sur 24 spectacles, c'est assez difficile de trouver un fil conducteur qui rejoigne tout. Et définir un fil conducteur au préalable, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément une bonne idée. Parce qu'en fait, les compagnies qui ont envie de jouer se retrouvent à essayer de coller au fil conducteur ou au thème qu'on a pu donner au festival. Et du coup, elles adaptent leur projet alors que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Du coup, elles ne font pas forcément ce qu'elles avaient envie de faire. Donc, à part le fil conducteur de la jeune création étudiante, il n'y en a pas.
Quels sont les thèmes abordés lors du festival, enfin, les thèmes de chaque pièce ?
C'est extrêmement variable, étant donné qu'on a quand même on a de tout en termes de programmation. On a des créations pures, donc des compagnies qui montent un spectacle à partir de rien. On a des gens qui reprennent un texte, qui peut être un texte contemporain ou un texte classique. Donc, c'est super large. Il y a quand même quelques thématiques qui résonnent pas mal chaque année, mais c'est assez compréhensible, notamment des thématiques sur sur la jeunesse, sur l'état du monde. On a pas mal de spectacles qui posent des questions politiques, pas au sens politicienne, mais au sens du vivre ensemble, de comment on fait pour faire société aujourd'hui, comment on fait pour vivre ensemble aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que faire de l'art aujourd'hui. Ça, c'est des questions qui, je pense, nous traversent tous, et notamment la jeunesse. Du coup, c'est assez normal que ça se retrouve en lumière dans la programmation du festival.
Quelle est l'évolution du festival depuis son commencement ?
Alors, du coup, il y a 21 ans, le festival a eu lieu sur une seule soirée. Il y a deux spectacles qui ont été représentés. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de l'association, le festival a grandi en ayant lieu sur plus de jours et en programmant de plus en plus de spectacles. Ensuite, il y a quelque chose qui a mis un bon coup d'accélérateur à l'association. C'est lorsque l'université s'est mise à soutenir des associations étudiantes, notamment via les conventions. Donc en fait, nous, on s'engage à l'année avec l'université. Et eux, ils nous fournissent un certain nombre de moyens, que ce soit des moyens financiers, matériels ou logistiques. Et nous, on s'engage à faire un festival. Donc ça permet d'assurer une certaine pérennité d'une année sur l'autre, parce qu'on sait qu'on a le soutien de l'université derrière nous. Sinon, de manière générale, ça va faire, je pense, 5 ou 6 ans que le festival dure 2 semaines. C'est un format qui est bien parce que ça nous permet de programmer suffisamment de compagnies, et en même temps, c'est pas trop trop long non plus. Et chaque année, on essaye de rajouter des petites choses, à la fois dans l'organisation interne et puis dans l'organisation générale du festival. Cette année, on travaille beaucoup plus avec des partenaires professionnels et avec des médias, parce que maintenant qu'on a les compagnies et le public, c'est un peu eux qui manquent. Et donc, du coup, on essaye de les inviter aussi à venir découvrir le festival et toute cette jeune création.
Pour le mot de la fin, est-ce que tu peux nous parler de ton coup de cœur ?
Je n'ai pas vraiment de coup de cœur, mais par contre, je peux vous parler de coup de cœur du festival de l'année dernière. Parce que le festival décerne plusieurs prix, un prix du jury, un prix du public et un prix lycéen. Et les compagnies qui gagnent des prix sont invitées à venir jouer leur spectacle au festival suivant. Et donc cette année, du 22 mars au 5 avril, vous pourrez retrouver le collectif Oupeknek qui présente les Paraphiles. Je vous laisserai découvrir dans la brochure qui ne va pas tarder à paraître de quoi il en retourne. Ainsi que l'association Incarné qui présente le spectacle Argumento. Les troisièmes gagnants du prix, le collectif Back on the Road, n'existent plus, mais ils seront présents sur tout le festival pour des petites animations musicales, donc vous pourrez également les retrouver. Voilà, ça c'était les coups de cœur de l'année dernière, et pour les coups de cœur de cette année, on vous invite à retrouver le festival et venir voter pour le prix du public.
Le festival à contresens aura lieu au sein de l'université Sorbonne Nouvelle du 22 mars au 5 avril 2017. On attend donc les spectateurs nombreux à ce festival.
Musique, cinéma, littérature, théâtre, cocktail culture, la mixologie des arts.
Kubrick mes couilles.
93.9.
Radio Campus Paris.
On va maintenant vous parler d'une exposition lettonne qui s'est tenue au Centre culturel du Crous de Paris.
1er décembre 2016, Galerie du Crous de Paris. Vernissage de l'exposition Future Gravitation, Gravitation Future. Une exposition de 5 artistes lettons. Kristaps Andersons, Manta Apsane, Christian Smetsoulis, Sandra Strehle, Marek Kolatz.
On leur a demandé de décrire leurs œuvres pour les auditeurs.
C'est sous pression d'installation qui incorpore de la joaillerie. Mon identité visuelle repose sur des objets qui paraissent fondus. Cette installation s'appelle Insoi. Elle est dédiée à l'homme moderne. L'idée principale, c'est que l'humain moderne veut toujours attendre quelque chose et être à quelque part.
Son nom est Un pour tous et ça parle d'identité et d'individualisme, d'un homme qui essaie de tout faire tout seul. Dans cette installation, on voit un homme jouant tous les instruments d'un orchestre. Au début de cette composition, on entend une cacophonie, comme s'il ne faisait que pratiquer ou qu'il ne savait pas jouer. Puis ça devient plus harmonique, et à la fin, au climax, la pièce s'arrête avec un bruit d'alarme.
Dans cette œuvre, les jambes qu'on voit sont mes propres jambes. C'est ma technique d'auteur. Je moule mes jambes dans du plâtre, puis, avec mon propre mécanisme, je les transforme dans du bois.
And it's interesting when you are like making this changing.
C'est intéressant quand tu fais cette transformation, tu reçois d'autres réponses, d'autres significations de cet objet. On a cherché à savoir quelle était leur inspiration.
J'allais au cours de natation à Riga quand il y a eu les attentats à Bruxelles. J'ai fait un lien entre les événements parce que je nageais tranquillement, tandis qu'en Europe, il se passait ces choses horribles. Puis j'ai pensé à utiliser l'eau et la piscine comme une métaphore. Les objets posés représentent la stagnation, mais l'eau fait un mouvement comme vers l'avenir. Donc il y a aussi de l'espoir.
L'influence principale était la Lettonie. J'ai voulu explorer l'identité lettonne. La Lettonie est un petit pays et tout le monde est son propre dirigeant. Les gens sont très individualistes, c'est difficile de former une équipe.
Pour moi, tous les détails sont importants, surtout le matériel, le bois, parce que c'est naturel. J'aime l'idée que le matériel ait eu son histoire avant que je ne le rencontre. Je parle du dialogue de l'être humain avec l'espace dans lequel il vit. Pourquoi on change l'équilibre qui est dans la forêt, qui est partout? Au fond, nous sommes les seuls êtres à ne pas être contents avec ce qu'on a.
Mon œuvre parle de l'homme moderne. C'est une sorte de vision. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous essayons d'attendre et pourquoi? Ce que je vais dire aux gens, c'est d'arrêter de temps en temps pour regarder où nous sommes.
Le nom de mon œuvre, Mélancolie, a beaucoup de signification parce que c'est un terme très riche en histoire. Dans mon œuvre, je l'emploie pour désigner un rêve de quelque chose qu'on veut absolument. On sait que cette chose va se réaliser, mais en même temps, on a l'impression qu'elle ne se réalisera pas. Du coup, on existe entre deux mondes dans lesquels on croit, mais qui n'existeront jamais ensemble.
On les a questionnés sur leur avenir en tant qu'artistes et sur l'humanité en général.
Je pense que mon média principal sera la vidéo ou le cinéma. Je veux lier la musique aux arts visuels.
En tant qu'artiste, je ne vais pas arrêter de faire ce que je suis en train de faire. Je vais évoluer, essayer d'évoluer comme je peux et diffuser mes œuvres aussi loin que possible.
J'aime transmettre les formes naturelles d'un matériel à un autre. Cette œuvre a transformé mes formes dans du bois. Je pense que la prochaine prendra un animal pour le transformer dans du granit ou quelque chose comme ça.
Je pense que l'avenir, dans mes œuvres, pourrait être vu comme une chose vers laquelle nous avançons, mais dont la gravité nous éloigne à chaque fois. Pour moi, l'avenir est un voyage inconnu, et je pense que c'est pareil pour les gens en général. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais on est toujours excité par l'avenir.
Et qu'est-ce qu'ils retiennent de cet échange entre la France et la Lettonie ?
Un artiste français qui a participé à l'échange entre le Crous de Paris et l'Académie des Beaux-Arts de Riga.
Ce qui m'a marqué, les conditions de climatiques. Après, non, ça s'est très bien passé. C'était une super expérience. Les trois autres que je connaissais pas, les trois autres artistes, étaient vraiment super. On était très bien accueillis. Enfin, j'en garde un très bon souvenir. À tous les niveaux, la nourriture, l'expo, les gens, la géographie, la ville, enfin, tout était magnifique.
Un des plus grands avantages de ce projet est le fait qu'on fait l'expérience en groupe. Nous sommes des personnes qui pensons différemment les uns des autres et nous devons nous réunir pour réaliser ce grand concept.
On remercie Thierry Lambert, le directeur du Crous, de nous avoir accueillis.
La pizza à côté, elle a augmenté d'un euro, la margarita. Du coup, je prends des suppléments merguez en fait. Je dois prendre un ticket resto de plus, c'est un peu chiant.
Ah, c'est bien ça, j'adore. Les gens souffrent.
Vous voulez pas trop ?
Non, merci. Non, on n'ira pas. Hein.
Cocktail culture.
Léonie, tu vas interviewer notre nouvelle invitée ?
Oui, nous sommes avec Kevin Corbou qui a réalisé son premier court-métrage Belle de nuit en août dernier à Tours. Et nous allons commencer par écouter un petit extrait.
Pourquoi est-ce qu'il me fuit tout le temps quand je lui dis que je veux sortir le jour? Mes copines s'amusent sans moi, elles font plein de trucs. Elles profitent du soleil, de la nature, de tout quoi. Et moi, je peux jamais y aller. Tout l'été va être comme ça. Je ne vais garder aucun souvenir à part celui d'avoir tourné en rond. Et elles, en septembre, elles vont reprendre leurs études, pendant que moi, je serai seule ici, à regarder mes séries comme avant et à attendre l'été prochain.
Alors Kevin, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ton film ?
Alors, Belle de nuit, c'est l'histoire d'une jeune fille de 20 ans qui vit seule avec son père et qui est atteinte d'une maladie mystique. Elle ne peut pas sortir au soleil. Et à l'approche de l'été, elle s'attriste de plus en plus de ne pas pouvoir sortir, profiter avec ses copines de l'été. Et du coup, elle va choisir une solution par elle-même.
D'accord. Et comment en es-tu venu à écrire cette histoire ?
J'avais vu le film Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch en mars 2014. Et en sortant, rien à voir avec le film, mais j'avais eu des idées d'une vampire qui était triste, ne pas pouvoir profiter de l'été. Et du coup, tout est arrivé d'un coup, la structure du court-métrage et tout ça. Ça n'avait rien à voir avec le film Jarmusch, mais ça avait déclenché en moi une sorte d'interrupteur. Et voilà.
Et quelles sont tes inspirations en termes d'écriture, d'image, de réalisation ?
Inspiration, j'aime bien les films d'Alain René, par exemple, en réalisation, ou Jean Cocteau. J'aime bien les films japonais aussi, la lenteur. Des films japonais. J'aime bien tout ce qui est lent, très lent. Et en écriture, j'écris très spontané, et puis après, je trie, et puis je réécris, je retravaille ce que j'ai déjà sur le papier.
Ok. Et alors, en 2017, aujourd'hui, ou en 2016, l'année dernière, comment on fait en tant que jeune pour réaliser son premier film ?
Alors là, c'est compliqué. Y a plein de plateformes comme Ulule ou KissKissBangBang pour faire un court-métrage. Ou alors, les jeunes sortent d'école de ciné et ont déjà des petits moyens. Moi, j'ai pas fait d'école de ciné, donc j'ai travaillé à peu près pendant 5 mois. J'ai économisé mon salaire de projectionniste. Et j'ai tout mis de côté pour pouvoir le financer moi-même. Donc, je suis pas le meilleur pour parler de financement. Je l'ai fait moi-même.
Bah super, félicitations. Et alors, à quelle occasion on pourra voir ton film ?
Alors là, il y a la première le 4 mars à l'Etna à Montreuil, qui est une sorte d'atelier cinématographique de bidouilleurs et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent venir, mais en tout cas, je vais annoncer des dates sur mon Instagram ou sur mon Facebook qui sont en public. Alors c'est Kevin Corbou. Kevin et Corbou, C-O-R-B-O-U. Et j'annoncerai tout par via les réseaux, en fait. Ouais.
Super. Et après, du coup, la diffusion de ce court-métrage-là, est-ce que tu as d'autres projets ?
Oui, avec la boîte de production de Tours, on va faire... je suis en train d'écrire un court-métrage assez long, entre 50 minutes et 1 heure. C'est un moyen-métrage, on va dire. Et beaucoup de temps d'écriture, mais c'est l'histoire d'un jeune garçon débordant de romantisme qui est confronté à des catastrophes sentimentales, on va dire. Mais ça sera dans plus d'un an, je pense.
Super. Et en fait, on avait une question bonus, du coup, parce qu'on vient de me rappeler que ton film, tu l'as tourné en 16 mm.
Yes.
C'est plutôt rare, parce que c'est une technique assez compliquée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
C'est compliqué. C'est pas forcément compliqué. Il faut connaître quelqu'un qui s'y connaît comme moi. J'ai eu la chance de connaître un passionné d'argentique qui est à mon âge. Et donc, on travaille super bien ensemble. Et sinon, c'est assez cher. C'est beaucoup plus cher qu'en numérique. Après, déjà la pellicule, après le développement et la numérisation. Et il faut vraiment connaître quelqu'un qui sait vraiment la manipuler, quoi, la pellicule.
D'accord, donc il faut connaître quelqu'un et économiser 5 mois de salaire.
C'est ça.
Eh ben, merci Kevin d'être venu répondre à nos questions. Et donc, on vous invite du coup à suivre ton actualité plus tôt, parce que le 4 mars, ce sera une diffusion privée.
Mais sinon, sur Instagram, Kevin Corbeau.
Super, merci beaucoup.
De rien.
Merci Léonie et Kevin. Léonie et June vont maintenant nous parler du festival Brouillage, organisé par Radio Campus.
Alors oui, nous sommes plusieurs dans l'équipe de cette émission à avoir participé aux ateliers de création sonore dans le cadre du festival Brouillage. Donc des intervenants ayant participé aux précédentes éditions du festival ont initié des groupes de radiophiles aux rudiments de la création sonore.
C'est ça, et Brouillage rassemble des artistes qui travaillent entre autres autour de fiction et autour de l'adaptation théâtrale à la radio. Et voilà quelques extraits des ateliers auxquels Léonie, Marthe et moi avons participé.
Léonie a une chemise rose pâle et de beaux cheveux noirs et...
C'est une maison blanche et bleue au bord d'une route. Elle est vieille. Quand on rentre, ça sent le feu de bois et l'humidité des habitations de bord de mer. À l'étage, le salon et la grande cheminée des feux de fin de soirée, la grande armoire des jeux de société et les gros fauteuils blancs en toile de jute. Au mur, les photos de tous ceux qui sont passés pour quelques jours, une nuit ou un mois, le temps d'un été, la famille, les amis, nous petits dans le jardin. Une maison peuplée de tous ceux qui l'ont traversée, dont la présence colle au mur.
Sur le bord du canal de Beagle, la fin du monde, paraît-il. Des arbres tordus par le vent, de l'eau glaciale et dangereuse. Au fond, des glaciers à perte de vue, un ciel immense et des lumières toujours impressionnantes. Un calme absolu, un sentiment de liberté.
Petite, brune, joliment, élégante, yeux marrons. Marthe.
Quand on arrive à l'allumer, se chauffer le cul contre la cheminée, y faire sécher les peaux de mandarine et s'allumer une cibiche, faire crépiter les zestes, jouer avec la cire des bougies et avoir chaud aux joues.
Expression que l'on veut garder, tout vient à point à qui n'attend rien.
Je me souviens des moments où je jouais à la Barbie avec mon frère, 5 ans plus âgé que moi. Je me souviens des heures passées dans les musées toutes petites, je détestais. Je me souviens de mon père qui jurait en anglais, pensant que nous, enfants, nous ne comprenions pas. Je me souviens de mon premier voyage seul au Québec, comme un road movie. Je me souviens des jeux de société en famille, des après-midi à discuter avec les amis.
Un mot à garder, mot inventé avec ma sœur, enfant, qui avait été élu le mot le plus drôle de l'année, je ne sais pas pourquoi. Papoum. D'autres mots que j'aime, saltimbanque, kiwi, zébulon, zigoto, ventriloque.
Mon nom est Anna. Je suis prête. Emmenez-moi. Vous pouvez noter mon nom, monsieur. Mais je vous en prie, oubliez-le tout de suite après l'avoir noté. Vous avez un mouchoir?
Non.
Monsieur, je vous en prie, ne faites pas votre diagnostic sur l'état où vous me voyez avec le costume que je porte. Ni sur l'allure que j'ai. Oh non. Allure trompeuse, ce n'est rien d'autre qu'un genre adopté pour un soir. Et un soir seulement. Je me suis dit, va, c'est ton heure. Prends bien soin qu'il ne te repousse pas. C'est donc seulement un genre d'emprunt pour qu'il ne me repousse pas. Vous n'auriez pas un mouchoir? En papier même, je m'en contenterais au point où j'en suis ce soir.
Non!
En dehors de mon nom, celui que je vous ai dit que je vous prierais d'oublier aussitôt, je n'ai rien à dire d'autre. Ouais, je ne vois vraiment pas. Profession? Rien? Non, rien, pas d'occupation. De profession, encore moins. C'est le privilège, n'est-ce pas, d'une jeune fille de famille? Je ne faisais rien de toutes mes journées que de tâcher de m'élever au-dessus de l'ordinaire. Tenter de me détacher des lumières vulgaires pour apercevoir les lumières essentielles. Profession? Cherche à apercevoir la lumière essentielle. Je conçois que cela n'a l'air de rien.
Mais n'est-ce pas le privilège d'une jeune fille de famille que de n'avoir l'air de rien? Tant pis pour le mouchoir, monsieur. Je me débrouillerai bien.
Vous pourrez écouter l'intégralité des créations des ateliers pendant le festival Brouillage qui aura lieu la première semaine de mai au Théâtre de la Loge, 77 rue de Charonne, dans le 11e arrondissement de Paris.
Merci les filles. Avant de clore l'émission, je fais une parenthèse sur une initiative étudiante qui invite tous les photographes, amateurs ou professionnels, à participer à une exposition participative organisée par des étudiants de la Sorbonne Nouvelle sur le thème du proverbe. Le principe est simple, vous choisissez un proverbe parmi les quatre proposés, comme « avoir le cul entre deux chaises » ou encore « la fin justifie les moyens » ou même d'autres proverbes si cela ne vous inspire pas, et vous l'illustrez en images. À la clé, vous êtes exposé à la galerie La Moulinette du 23 au 26 mars 2017. Pour plus d'infos, consultez la page Facebook « Gare aux clichés ». Merci à toute l'équipe de Cocktail Culture, June, Léonie, Philippe, Ilias, Diego à la technique, Kevin pour notre invité et Claudio, et à Mélanie, notre coordinatrice. N'hésitez donc pas à être spectateur du festival à contresens, de vous délecter des livres de la librairie Palimpseste, de vous régaler en écoutant Sahara ou Claudio, à être inspiré devant le film Black Panthers, et à aller voir le court-métrage Belle de nuit le 4 mars prochain à l'Etna à Montreuil. En espérant qu'on vous en ait mis plein les yeux avec notre sélection culturelle, on vous souhaite à tous un agréable moment.
Cocktail Culture.
Ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre.
Parier tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Je suis collé au siège. Allez, on y va, on fait les choses en vrai, on va voir les gens en vrai, on les touche. Un cocktail.
Cocktail Culture.
Cocktail Culture.
Cocktail Culture.
Cinéma.
Musique.
Littérature.
Théâtre.
Sur Radio Campus Paris.
Avec le Centre Culturel du Crous de Paris.
Cocktail Culture, la mixologie des arts. Radio Campus Paris.
Je veux un Oscar pour ce gémissement.